ce nom beaucoup trop long, les pérégrinations néo-rétroculturelles de Camille. Qu'est-ce que tu as choisi dans ta chronique aujourd'hui, mon cher Camille? Qu'est-ce que tu as à nous proposer?
Alors aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu des supports physiques du champ, parce que finalement, aujourd'hui, on est un petit peu tous abonnés à la même enseigne, hein, c'est-à-dire que nous, toute notre musique, on la consomme généralement soit sur Spotify, Deezer, YouTube, ce que vous voulez. Voilà, mais on réfléchit pas forcément à ce qu'on a eu quand on était enfant ou plus jeune, en fait. Ou même encore avant, finalement. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc on va faire une petite rétrospective, on va partir loin et puis on va arriver finalement pas si loin de chez nous.
Voilà. Pas trop loin, oui.
Pas trop loin. Bon, on va quand même partir assez loin, parce qu'avant le support physique, en fait, il existait un truc génial qu'on a appelé la partition, qui est apparu à peu près en moins 1400 avant JC. Voilà, donc normalement, si vous connaissez cette partie-là, c'est que vous avez un petit problème de carte d'identité.
C'est vrai, voilà. C'est vrai.
Essentiellement, et pour pouvoir
Il y en a encore aujourd'hui, des partitions.
Il y en a encore aujourd'hui, des partitions, heureusement. Heureusement. La création, quand même, ça commence à remonter un petit peu loin. Donc ça a surtout beaucoup explosé à partir du Moyen-Âge pour généralement tout ce qui était musique religieuse. Et globalement, quand vous aviez une partition de quelque chose, si vous vouliez la musique, bah, pas le choix. Il fallait aller voir, soit vous connaissiez un instrument, soit vous alliez voir un musicien qui l'a joué pour vous. Pas ultra pratique comme musique portable, hein, quand même. Voilà, donc il faudra attendre 1877 pour que y ait un certain Thomas Edison. Voilà, donc l'ampoule électrique... Le télégraphe, tout ça, c'est lui, hein, c'est, voilà, qui invente le phonographe. Donc le but, c'était de pouvoir réussir à graver des cylindres phonographiques qui étaient en fait des petits cylindres couverts de feuilles d'étain. Donc ce sera 10 ans plus tard remplacé par de la cire et encore 10 ans plus tard par du celluloïde. Voilà, donc sachant qu'au maximum, on atteignait les 4 minutes 30 de contenu. Et jusque-là, il faudra attendre encore pas mal d'années, mais à ce moment-là, Edison, c'est le leader mondial de l'enregistrement, tout seul. Alors, le monsieur, il se débrouille tout seul. Pour attendre 1889, pour qu'il y ait un certain Emil Berlinger qui met au point le premier disque à micro-sillon, donc qui est fait en vinyle, du coup, qui est une matière plastique qu'on retrouvera un petit peu partout, notamment dans les années 80, qui sont particulièrement
connus. Ils étaient pas en cire au début, ou un truc plus... Non, c'était directement en vinyle.
Les premiers qui ont vraiment tourné et qui ont été vraiment commercialisés ont été en vinyle. Après, il y a eu encore d'autres dérivés, ceux qui... ont été imprimés en 4 exemplaires, je vais vous les passer parce que sinon on va y passer 2 heures. Mais ceux-là, c'est ceux qu'on va appeler les 78 tours. Sachant qu'à l'époque, on est encore en enregistrement mécanique. Alors, on verra plus tard que ça va jouer. Donc pour se mettre un petit peu dans le contexte, donc fin 1898, 1900, ce qu'on va un petit peu appeler la préhistoire, enfin tout au moins, ça n'engage que moi,
oh, on va appeler
la préhistoire. de la musique moderne, avec essentiellement parmi les gens qui étaient vraiment huppés à la haute à cette époque-là, Scott Joplin, qui va inventer à lui tout seul le ragtime. Donc le ragtime, c'est ce qui va donner plus tard le jazz. Voilà, avec les premières coon songs, c'est ce qu'on va appeler aux États-Unis tout ce qui va être chansons noires, qui vont par la suite se dériver du coup en blues. Et en 1902, le tout premier tube français. Attention, vraiment le premier tube, la première chanson que toute la France va chantonner, qui est une chanson de Félix Mayol qui s'appelle « Viens Poupoule ». Voilà.
Elle n'est pas restée, on l'a pas... Ouais, voilà.
Elle est restée très longtemps, notamment parce qu'elle a été chantée après par Maurice Chevalier. Mais ça, c'est encore une autre histoire.
Voilà. C'est une chanson, ça aussi, une autre histoire, mais c'est encore une autre histoire aussi.
Aussi, mais on y retrouve finalement tout ce qui fait un bon tube français, qui fait que Patrick Sébastien fonctionne encore, malgré ses années.
Ouais. Oh, ça taille.
Un petit peu, mais ça marche aussi. 1898, une invention très intéressante qui est le télégraphone. Donc ça a été inventé par Valdemar Poulsen et c'est basé sur l'enregistrement magnétique. Voilà, donc c'est un truc, à l'époque, personne n'y croit. Il va continuer à croire en son projet, il va même le pousser jusqu'à l'exposition universelle de Paris en 1900. Et malgré tout ça, personne ne va jamais croire dans son projet. Ce qu'il ne savait pas, ce pauvre Valdemar Poulsen, c'est que 60 ans plus tard, son invention serait reprise, modifiée un petit peu, et qu'elle révolutionnerait complètement toute l'histoire du support de son. Voilà,
il n'avait pas eu le temps. J'avais aucune idée que c'était aussi vieux.
C'était aussi vieux que ça. Ce type a déjà eu l'idée 60 ans plus tôt. Faudra attendre quand même 25 ans de plus, donc faudra passer la Première Guerre mondiale pour que, à nouveau, on commence à réinvestir, à refaire de la recherche là-dedans, avec l'enregistrement électronique, puisque la Première Guerre mondiale a aussi apporté ça, le début de l'électronique et du calcul, pour les 78 tours, donc avec justement l'apparition de l'amplification, qui sont généralement des dérivés de choses qu'on avait développées pour la guerre. Donc ça va grandement améliorer notamment la qualité d'enregistrement, et on va avoir une autre chose qui va arriver, qui est le standard de taille, puisque à l'époque, on enregistre le disque. Et une fois que le disque est enregistré, si jamais vous n'avez pas besoin de 10 pouces, vous avez un disque où, mettons, la chanson elle rentre dans 7 pouces et demi, bah vous gardez 7 pouces et demi. Imaginez un petit peu la galère pour faire les reproductions. Voilà, donc à partir de là, ils vont commencer à dire, il y a des tailles, on les respecte. À l'époque, il y avait 3 tailles, ils ne bougent plus. Alors, pour se remettre un tout petit peu dans le contexte, 1925, pour moi, c'est ce qu'on va appeler les fondamentaux de la musique. Toujours un peu moderne, avec George Gershwin, ouais, qui fera un bon mélange entre ce qui deviendra le jazz et du classique. En France, Maurice Chevalier, qui lui, c'est facile, il fait tout. Voilà,
effectivement. Vous cherchez
quelqu'un qui fait du music hall, de la chanson, il fait tout, voilà. Et aux États-Unis, les débuts d'un petit monsieur pas extrêmement connu qui s'appelle Louis Armstrong. Normalement, ça, vous connaissez.
Oui,
effectivement, voilà. Pas connu.
Tout le monde visualise à peu près qui c'est, normalement. Voilà, alors, 10 ans plus tard, 1935, c'est l'invention du magnétophone à bande. Donc, c'est généralement utilisé par les professionnels du son. Normalement, vous en avez tous vu parce que c'est ce qu'on voit quand on filme des studios de production dans
les cinéma.
Voilà, c'est ça. Jusque dans les années 90-95, on en voit encore à la télé. C'est un truc qui, moi, personnellement, m'a énormément marqué quand je regardais la télé à l'époque. Donc c'est essentiellement des très grosses bobines avec tout simplement des enregistrements magnétiques sur bande. C'est un énorme échec commercial, par contre ce sera toujours très utilisé chez les professionnels. Un an plus tard, je ne connaissais pas l'existence de cette chose, avec un objet qui s'appelle le Tefifon. Donc c'est conçu en Allemagne. Oula. Et le but...
Le Tefifon.
Ouais, je ne connaissais pas vraiment. C'est de faire un mélange entre le vinyle et la cassette. Voilà, donc on a une cartouche de bande vinyle qui sont... encastrés dans des toutes petites cassettes qui sont lues comme ça. Et le but, c'était à l'époque de pouvoir créer des playlists. Ça pouvait contenir jusqu'à plus de 4 heures de musique. Donc ils enregistraient des opéras entiers avec ce truc-là. Voilà, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Hein.
On va dire que c'est, ah bah c'est ça me parlait pas à Tefifon.
Non. Non,
on est un Tefifon fonfon, mais Tefifon fonfon.
Peut-être le nom, je ne sais pas. En tout cas, c'est resté allemand et c'est jamais sorti d'Allemagne pour le coup.
Et on comprend pourquoi.
Ouais, en 1935, côté musique, c'est toujours Gershwin et Chevalier qui sont en avant. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là et continuent à être en avant. Par contre, chez nous, c'est le premier enregistrement de Édith Piaf.
Oh
hein ? Ouais, les gens qu'on commence un petit peu à connaître, plus en tout cas aujourd'hui. Avec la grande mode de l'époque, c'est le swing. Attention, on va attaquer les choses.
Oui, l'eau s'en souvient encore.
Voilà, et les débuts de carrière de Frank Sinatra. Ça, normalement, c'est le nom vous cause un petit peu. Okay. Ah oui, il a commencé il y a longtemps.
Il a commencé voilà, il y a longtemps.
Le jazz est installé, le blues aussi. Il sera un petit peu moins marquant à l'époque, mais le blues est là également. Faudra attendre quand même pas mal d'années, puisqu'on se retrouvera seulement en 1948 pour avoir enfin l'invention de quelque chose qu'on normalement on connaît à peu près tous, on en a à peu près tous vu, puisque plus ça va et plus on en vend. C'est le vinyle ou tout simplement le 33 tours. Donc c'est quelque chose, c'est un objet qui a été inventé par la Columbia Records. Et très très vite, le monde de l'industrie du disque va complètement adopter ce standard-là. Sachant que le premier à l'utiliser, ce sera Frank Sinatra qui va passer tout simplement ses albums de 78 tours en 33 tours. Voilà. Ni plus ni moins.
Oui.
Donc on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'un point de vue contexte, on va commencer à arriver à ce que je vais appeler les canonisés. C'est vraiment les gens qui ont fondé, qui ont donné les fondamentaux et qu'on n'oubliera maintenant jamais, ce qu'ils sont un petit peu inscrits dans l'histoire, sans forcément qu'on se souvienne nécessairement de ce qu'ils ont fait très précisément. Parmi lesquels, on peut notamment noter en France Édith Piaf, Yves Montand, qui a énormément d'albums qui sont très très vieux d'ailleurs, il y a encore, ou Fernandel, simplement. Aux États-Unis, on pourra noter beaucoup de jazz bands, et notamment avec Louis Armstrong, dont on a déjà parlé, Charlie Parker, ou si jamais vous aimez le piano, Thelonious Monk. Voilà. Sachant qu'en France, d'un point de vue ambiance, dans ces années-là, on est quand même plus orienté chanson des partisans. Ceux qui se souviennent un petit peu de cette période-là. Ce qui n'est pas forcément très très propice à l'installation du jazz, d'ailleurs, tant qu'à faire. Aux États-Unis, c'est également un truc très important à noter, ce qui va beaucoup influencer tout ce qui viendra après, c'est que c'est les débuts des guitares électriques industrielles par Fender avec la Broadcaster. Voilà. Avant ça, ça n'existait pas, ça vous coûtait une fortune. On va avancer un petit peu, on va prendre une bonne quinzaine d'années en avance, hein, et on va arriver en 1963 avec quelque chose qui va révolutionner complètement tout le marché. Donc on va un petit peu pour ça se rappeler légèrement du télégraphone, et on va aller inventer la cassette audio. Donc celle-ci, c'est la cassette que vous avez connue, que moi j'ai connue quand j'étais gamin, parce que mes parents en avaient, et en ont encore d'ailleurs, et qui fonctionne encore. Donc sur le principe de la bande magnétique, et ce qui va aussi renouveler un petit peu, ramener tout un nouvel pan de la musique finalement que nous on connaît, qui est le début de la copie privée déjà, et le début des enregistrements et du marché pirate. Enfin, chose. Ah, moi,
j'en ai une pleine caisse, hein, par exemple, et je pense que dedans, il y en a 5 que j'ai dû acheter. Toutes les autres, c'est des copies.
Beaucoup ont fait ça, mes parents aussi. Hein. J'ai écouté énormément de choses et j'ai découvert énormément de musique grâce aux cassettes de mes parents, à commencer par Laurent Voulzy quand j'étais gamin.
Oh là là, ah, non, moi, peut-être, moi, c'était plus des. J'avais des histoires audio. Dedans les fameuses, ah oui. Les fameuses sagas MP3 de l'époque avec quelqu'un qui racontait des effets sonores, quelqu'un qui ouvre la porte, mais beaucoup de...
Disney a fait ça, il y avait pas mal de cassettes audio Disney d'histoire.
Oui, il y avait, donc, j'avais même ouais. Des cassettes oui où il y avait des histoires de oui, je m'en rappelle, c'est vieux tout ça, c'est vieux. Hein. Mais là, ouais, des
c'est vieux, mais c'est assez intéressant de voir comme la cassette audio, qui pourtant inventée en 63, a laissé une empreinte et une histoire à quasiment tout le monde. À part peut-être les toutes dernières générations, sinon tout le monde a connu la cassette.
Mais pendant beaucoup d'années, parce que là tu nous en parles, là t'es dans les années 60, on était encore en plein dedans dans les années 90.
Oui,
donc ouais, on est vraiment...
La cassette audio ne trouvera jamais repreneur.
Première moitié des 90. Ouais.
Donc ouais, en fait, globalement, ça a été une bonne trentaine d'années, un petit peu moins du feu de Dieu, quoi.
C'est ça. Alors, on a tous, je pense, des gimmicks, d'objets qui vont avec la cassette audio, comme le fameux stylo qu'on utilise pour pouvoir rembobiner la cassette à la main ou ce genre de choses.
Et le bout de scotch pour masquer l'espèce de cache qu'on enlevait au-dessus pour pouvoir la rendre lisible ou pas, la cassette.
C'est ça. Voilà, il y a plein de petites choses qui font que tous ceux qui ont connu la cassette audio se souviennent.
Le truc qui était absolument incroyable avec la cassette audio, c'était le Walkman. Oui. Parce que du coup, pouvais avoir ta musique pour toi dans tes oreilles et tu pouvais l'amener partout. C'était un truc absolument incroyable quand c'est sorti le Walkman.
Ouais. Et là-dessus, c'est vrai que ça a révolutionné pas mal le marché, puisque jusque-là, avec un disque vinyle, impossible de faire ça.
Ça fait beaucoup à ça fait lourd.
T'avais des mange-disques, mais c'était pas du tout la même.
En fait, t'avais un sac à dos qui te ramenait avec ton tourne-disque, mais dans le dos, parce que c'était tellement gros. Allez, mon 70
certains
tours.
L'ont fait, ça. Certains l'ont fait en 33 tours. Il y a beaucoup de boîtes qui ont essayé de faire du transportable.
Ouais, c'est mange-disques, ouais.
C'est plus conceptuel, c'est plus des jolis objets que des objets utilisables, mais ça fonctionne.
Oui,
ça fonctionne. L'année d'après, juste après l'invention de la cassette audio, on invente la cartouche 8 pistes, ou ce qu'on va appeler la cartouche audio. Donc si jamais vous n'avez pas eu de voiture des années 70, ça vous parle peut-être pas, mais c'était utilisé essentiellement dans les autoradios, et ça pouvait contenir jusqu'à 4 morceaux qui étaient à l'époque en stéréo. Il y avait 8 pistes, donc vous avez un côté de chaque. Pour un côté, prenez du coup 2 pistes. Simplement.
Ça a bien foiré comme support, ça, non ?
Ça a bien foiré, oui. Parce que, du coup, fallait avoir une voiture dans les années 70 avec un autoradio pour acheter ce support-là.
Ouais, c'était pas.
Sinon, vous preniez des cassettes et après, tous les autoradios se sont mis à avoir des cassettes. Tout simplement. Ouais. On continue sur le secteur des cassettes, puisqu'en 69, du coup, il y aura la microcassette. Alors, ça, si vous avez regardé tout ce qui est peut-être plus orienté musical, notamment dans le contenu qu'on pouvait avoir audiovisuel. Ça vous parle peut-être, c'est tout simplement une version compacte de la cassette, ça a exactement la même longueur de bande. Le point un peu négatif, c'est que c'est très très cher, le point positif, c'est que c'est très pratique pour les enregistrements de concerts et pour jusque dans les années fin 90, les dictaphones.
Oui.
Ça continuera à être très utilisé en fait, mais seulement dans une toute petite...
Ou les répondeurs téléphoniques, figurez-vous.
Ou les répondeurs, ouais.
C'est vrai aussi. Et Hello s'en souvient.
En vrai, les dictaphones, non. C'est super pratique.
Ouais, ça continue encore.
Ah oui, oui. Quand j'étais étudiante, bon, j'ai eu mon master en 2015, mais j'utilisais des dictaphones quand j'assistais à des présentations et c'était méga pratique, vraiment.
Qui a rembobiné la bande.
C'est resté très longtemps, même je pense, dans l'imaginaire des gens, le côté démo que tu passes sur une mini cassette à un producteur ou quoi, je pense que c'est un truc.
Bah, les films ont beaucoup joué là-dessus, hein, donc en fait, tu l'as toujours dans ton. Pour, quand tu ne l'as pas connu, dans ton imaginaire, vu que bah, les films le soulignent assez, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a un petit côté inconscient collectif. Et puisqu'on parle inconscient collectif, du coup, on va repartir un petit peu dans le contexte. Donc là, cette fois-ci, je vais couvrir un petit peu toute la tranche 65-70, qui, pour moi, d'un point de vue musical, c'est ce que je vais appeler l'âge des légendes. Les gens, bon, on peut toujours les avoir à l'esprit, mais qu'on n'oubliera jamais. Voilà. Donc parmi plus encore dans le côté du jazz qui existait encore à l'époque, étant encore bien vivant, on va avoir par exemple Bill Evans ou Miles Davis. Et la mort d'un des plus grands saxophonistes, qui est John Coltrane, évidemment. En France, on va avoir ce qu'on va commencer à appeler des superstars qui vont rentrer dans la légende, comme France Gall, Johnny Hallyday, Joe Dassin, Claude François, Paul Naref, Sardou. Aux États-Unis ou en Angleterre, on va commencer de plus en plus à partir vers la scène rock, d'où je vous parlais évidemment de l'existence des première guitare électrique pas trop chère, avec les Beatles, Bob Dylan, Bowie, Eric Clapton évidemment, Led Zepp bien sûr, qui va enchaîner Jimmy juste
Hendrix.
Après. Jimi Hendrix, un tout petit peu plus tard, exact. Les Rolling Stones ou Carlos Santana, qui sont vraiment dans l'époque, sachant que 1969, évidemment, c'est le festival de Woodstock, suivi moins d'un an après avec le décès terrible de Jimi Hendrix et Janis Joplin deux semaines après. Et en 71, bah, l'arrivée d'un petit mec qu'on connaît un petit peu maintenant, qui s'appelle Michael Jackson, au hasard.
Voilà. Au hasard.
Au hasard. Un mec pas très connu aussi. On enchaîne après, on va passer dans une nouvelle ère de la musique.
Ouais. Juste pardon, je vais faire mon vieux, mais du coup, mon premier souvenir moi, de musique qui m'a vraiment marqué, c'est d'écouter Thriller, je pense, de Michael Jackson, en cassette, sur mon baladeur, sur mon Walkman Sony.
Sur ton 33 tours portable.
Je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs comme ça qui peuvent très très vite remonter, surtout avec ces gens de cette époque-là qui resteront toujours. Tout le monde connaît ces gens. Même quand vous n'êtes pas de cette génération-là, aujourd'hui, plus personne ne connaît pas les Beatles. C'était John Lennon l'avait dit très clairement. Aujourd'hui, les Beatles sont plus populaires que Jésus.
Ah. Oh, tout autant.
Ça avait fait polémique à l'époque.
Attention, hein. Alors l'eau...
Est-ce que ça prend encore polémique? Je ne sais pas.
Pour mais, TikTok, l'eau, tu isoles cet extrait. Et je pense je pense que ça va fonctionner. Tu peux continuer, cher Kevin.
On continue en 1978 avec l'apparition cette fois-ci du laserdisc, celui qu'on va appeler LD. Donc c'est un disque qui est souvent de taille vinyle cette fois-ci. C'est pas un disque qui va fonctionner énormément, mais c'est très utilisé au cinéma. Malheureusement, chez nous, ce sera trop cher. En Europe.
C'est Philips, donc, hein, si je ne me trompe pas.
C'est ça, ouais. Ouais. Philips qui va énormément investir d'ailleurs dans ce milieu-là. Mais ce sera trop cher, donc ce sera un petit peu mis de côté. Il faudra attendre 4 ans de plus pour que apparaisse ce qu'on va connaître chez nous, qui va être le disque compact. Hein. Celui qu'on va appeler le CD. Donc qui sera une création, qui sera une production en fait de Philips et de Sony, les deux en même temps, qui vont s'allier pour pouvoir créer justement ce produit.
Alors,
qui commencera à tout remplacer.
C'est quelle date?
82.
Ah ouais,
1982, bah exactement, parce que en fait chez nous il faudra vraiment attendre les années 90 pour que ça commence à tout remplacer. Avant ça, c'est encore la cassette qui prédomine parce que c'est plus pratique, tout simplement, je pense. Les gens se voyaient peut-être pas acheter des nouveaux produits, rechanger encore de matériel, alors qu'ils avaient probablement juste investi dans la cassette. Il faudra vraiment du temps pour que ça prenne. Après, une fois que ça a pris, par contre, ça a tout remplacé. Très clairement.
Alors, il y a un moment où on avait tout. C'est-à-dire que, par exemple, nos parents avaient toujours plein de vinyles. Nous, on avait toujours nos cassettes qu'on n'avait pas jetées, évidemment. Et on achetait des CD. Donc, on avait, à la maison, on avait des vinyles, des cassettes et des CD.
Ouais, mais alors, les vinyles, il y a eu un moment où c'est pas cette date. Les cassettes, c'est la même chose. Les CD, ça arrivera plus tard. Au début des années 2000, c'est très tendance d'en avoir beaucoup. Maintenant, non. Voilà.
Contrairement au vinyle qui est revenu.
Les CD reviendront peut-être comme les cassettes, c'est trop jamais. Alors, d'un point de vue contexte, là on est sur la tranche 85-90, c'est ce que je vais appeler l'âge superstar. Alors, c'est les gens qu'on connaît, qu'on voit à la télé, qu'on verra à la télé beaucoup, qui sont très très médiatisés et qu'on a encore en image de cette époque-là. Pour vraiment une stance très très particulière. Parmi lesquels on va pouvoir nommer par exemple Lerita Mitsuko, Renault, Indochine, Téléphone, voilà, Jean-Jacques Goldman, par exemple, Vanessa Paradis, David Hallyday. La nouvelle génération, ce n'est plus Johnny, c'est son fils. Florent Pagny, par exemple, Céline Dion, Chagrin d'amour, Dorothée, Woolsey, Souchon, tous ces gens-là.
Ça en fait.
Voilà, ça en fait. Lagaffe, par exemple, aussi, qui est de cette époque-là, mine de rien. Aux États-Unis, ça fera une nouvelle génération encore de rock qui va arriver avec Michael Jackson, Dire Straits, Bruce Springsteen, Queen, par exemple. Europe, AC/DC, Toto, In Excess, Eagles, le début du disco également avec Bonnet ou Imagination. Lenny Kravitz également qui va se rajouter, Prince par exemple. À noter quand même parmi les petites dates marquantes que j'ai retrouvées, qui a marqué encore, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'en souviennent, c'est 1986 avec le décès de Daniel Balavoine.
Oh, je n'étais pas
au Dakar, dans un hélicoptère, un accident d'hélicoptère.
C'est ça, les gens se souviennent encore de cet événement, c'est un des événements qui a le plus marqué étonnamment, malgré par exemple la mort de Coluche qui appartient aussi à cette époque-là. Le décès de Balavoine, je pense, a marqué énormément de gens à cette époque, j'ai revu encore plein de choses dessus depuis des années et des années. Voilà. On continue un petit peu, justement on va parler du mini-disque MD, qui est cette fois-ci une production uniquement Sony, pas de Philips, voilà, qui va reprendre, qui veut essayer de faire un mix des deux. voilà, le CD c'est pratique mais c'est grand, la cassette c'est pratique mais c'est petit, mais la qualité du son est pas fou, donc est pas folle. Donc ils se sont dit, bah on va prendre le son du CD, la taille de la cassette, et on va mixer les deux pour faire un mini disque. Pas de bol, du coup ça a été un échec commercial, mais c'était pas forcément une mauvaise idée.
Un peu partout, parce qu'au Japon ça marchait plutôt bien.
Au Japon ça a bien marché, ouais. Après, au Japon, tous les formats en fait ont plutôt bien fonctionné.
Ce qui marchait pas chez nous, ça marchait bien chez eux. Donc,
mais ils ont eu beaucoup plus de formats que nous, et surtout ils se sont adaptés beaucoup plus vite là où chez nous. À chaque fois qu'on a inventé un nouveau format, surtout à l'époque, rien qu'à voir le CD, le temps que ça a pris pour que ça s'installe, en fait, chez eux, en 2 ans, c'était réglé. Le Blu-ray, par exemple, chez nous, a pris plus de 15 ans à arriver. Chez eux, ça fait des années et des années qu'il n'y a plus de DVD.
On a du retard.
Voilà. On s'adapte plus doucement que là-dessus. 1993, c'est l'apparition de quelque chose que vous connaissez tous, qui est le format MP3.
Ah, pardon. Aussi
accessoirement. Mais le MP3 est né en 1993, donc c'est un format de compression qui va permettre de compresser énormément la musique en retirant tout ce qui va faire ce qu'on va appeler les silences. Donc ce sera énormément utilisé, notamment dans ce qui sortira juste après, qui est le vidéo CD, qui fonctionnera d'ailleurs pas et qui sera quand même sorti par Sony. Enfin, qui sera un alliage de 4 boîtes, qui est Sony, Matsushita, Philips et JVC. Autant de boîtes qui vont travailler sur un échec commercial, malheureusement sorti la même année. Voilà. Il faudra attendre 99 pour qu'il y ait à nouveau une nouvelle création qui va se faire, qui est le Super Audio CD. Donc cette fois-ci, c'est Sony Philips. C'est censé être le successeur du CD. Voilà.
Entendu parler.
C'est un puissant échec commercial. Voilà. C'était censé l'être. Ça s'est pas vendu, donc ça n'est pas devenu. Par contre, c'est toujours populaire auprès des audiophiles. Donc il y a encore des gens qui achètent des super audio CD. Voilà. Donc, ce à quoi on va refaire une petite touche de contexte, puisqu'après tout, on arrive dans les années 2000. Donc, année 2000-2005, c'est ce que je vais appeler l'année de la Flash Star. Avec encore une nouvelle génération, mais c'est des gens où on va en entendre parler pendant 3-4 ans, 5 ans. Et après, ce sera soit par intermittence, soit on les oubliera.
C'est l'époque des Starac, genre de choses.
Voilà, exactement. Donc, parmi les gens qu'on peut noter en France, par exemple, on a Calogero, Garou, Alizé, Laurie, Yannick Noah, qui fait aussi partie de cette époque, Danny Briand, Jennifer, bon, on entend parler quand même grâce à la télé, mais d'un point de vue musical, on entend quand même moins parler, Carla Bruni, Nolwenn Leroy, par exemple, DJ Bobo.
Allez, Chihuahua.
Chihuahua, très fort, il est très fort.
On a la culture musicale qu'on choisit, hein. Écoutez.
Travailler à la radio, toi, sans faire.
Dont il est fier, en plus.
Moi, j'adore Chihuahua. J'avais le CD de titre, hein, écoutez. Hein. Il y avait Chihuahua et Chihuahua 2.
Je savais même pas qu'il y avait un 2.
Ah, il y a toujours un 2.
Trio.
Ouais, bah, peut-être cette époque-là, Magic System ou Benabar. Voilà,
un peu de beau monde quand même.
Beaucoup de gens qui ont disparu aussi. J'ai viré tous les gens que je ne reconnaissais pas.
Et tu as laissé ceux qui te laissaient.
J'ai mis ceux que je connaissais. Plus à l'international, on va avoir Eminem, Coldplay, Britney Spears, Linkin Park, Daft Punk, Pearl Jam, Shakira, Billy Crawford, Beyoncé ou Maroon 5 par exemple. C'est des gens de cette époque-là. Alors, j'ai pas cité tous les nerds
des années 90,
on aurait pu aussi, mais c'est des gens dont avant on entendait parler, gamin j'en entendais parler, aujourd'hui c'est vrai que d'un point de vue actualité, bon.
C'est timide.
C'est plus timide quand même, sachant que parmi les disques d'or et les disques qui sont le plus vendus à cette époque-là, c'est il y a un petit peu quand même de nouveautés, mais il y a énormément de gens qui viennent de l'époque superstar ou de l'époque légende. Hein.
Effectivement.
Voilà. On pourrait penser que ça s'arrête là, et non, puisque en 2013.
C'est pas fini. J'aurais dû mettre le jingle.
Et après ça s'arrête. Pour une fois,
attends, tu veux dire qu'en 2013 il y a un nouveau support physique de musique qui est sorti?
En 2013 il y a un nouveau support physique qui est sorti qui s'appelle le Blu-ray Audiophile Pure Audio ou BDA.
Mais c'est quoi la différence avec le reste?
Ah justement, c'est que cette fois-ci c'est sorti par Universal. Universal Music, c'est censé être à nouveau l'héritier du CD. Voilà, sauf que c'est le CD avec la capacité Blu-ray.
D'accord, très utile. Donc, du coup.
Ouais, alors la seule différence, c'est qu'il y a zéro compression par rapport au CD.
Ah bah oui, voilà. Forcément.
Et que pour le lire, cette fois-ci, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel lecteur Blu-ray, ça marche. Et apparemment, ce serait la meilleure qualité sonore possible de tout le marché.
Ah
ah. Voilà.
Et ça doit coûter cher.
Ça doit coûter cher, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup d'impression en Blu-ray audiophile pure audio. Donc je pense que
le nom est trop long pour le commercialiser.
Et sérieusement, le nom, tu viens de l'inventer ou c'est le vrai nom?
Non, c'est un vrai nom, c'est le vrai nom, le BDA.
D'accord.
Eh, t'as acheté le dernier BDA de... de Nolwenn Leroy.
Finalement, aujourd'hui, en fait, on est encore resté sur le CD qui est de 1982.
Alors, sur le CD, oui, parce que...
Par rapport au format physique.
Plus personne n'utilise de format physique, sauf les collectionneurs qui aiment bien les vinyles, disons, ou les cassettes.
En tout cas, dans les nouveaux investissements récents, c'est vrai qu'on n'est plus sur les plateformes de streaming.
C'est ça. En fait, quand tu as un nouvel album qui sort, généralement, si jamais tu veux l'écouter, tu vas soit sur ta plateforme de streaming, soit tu en veux une version physique. Dans ce cas-là, tu vas dans ta Fnac ou ton petit magasin audio ou je ne sais quoi, et tu vas aller acheter le CD.
Non, le vinyle.
Ou le vinyle, si jamais il y a une version vinyle. Mais il n'y a pas tant de choses qui sortent en vinyle. Il y en a de plus en plus qui ressortent le vinyle, le 33 tours.
Mais c'est vrai que c'est quand tu adores un artiste, que tu veux collectionner un peu, tu prends tout ce qui est en version physique, s'ils sortent des...
C'est ça.
Ce qui devient le collector. En fait, ce qui était le format basique devient le collector maintenant, avec le vinyle, le CD ou autre, qui sont des formats collector.
Que le vinyle aussi a un prix et a une utilisation qui est...
25 balles, ouais.
Ouais, 25-30 balles gentil, minimum à chaque fois. Ouais,
quand t'es pas
en autre version supplémentaire, etc. Plus la machine.
Oui, si tu n'as pas l'objet déjà, mais en général...
Faut avoir la platine avec, sinon c'est sympa. Ça
après, tu peux en avoir une pour pas cher, mais c'est vrai que si tu vas avoir un beau truc, mais une fois que tu l'as, tu le changes pas tous les ans, donc ça le fait.
Ah non. Ouais, enfin, je dirais que la platine, c'est presque le moins cher. Parce que quand tu veux avoir profiter de ta platine, faut un bon...
Oui, 30 euros,
des
fois...
Des bonnes baffles.
C'est ça. Ouais. Ça, donc la platine chinoise à 25 euros, très clairement, on oublie très très vite. Là où le CD, ça pose quand même beaucoup moins de problèmes. Vous le mettez, alors aujourd'hui les ordinateurs ont de moins en moins de lecteurs CD, mais vous le mettez dans quasiment n'importe quelle machine qui est capable de lire un disque, ça marche. Voilà, donc le CD se vend encore étonnamment après plus de 40 ans d'utilisation. Voilà. Est-ce que le Blu-ray audiophile pur audio, un jour sonneur de gloire.
Mes couilles au bord de l'eau, on a le nom à rallonge.
Voilà, c'était il y a 10 ans quand même, il y a 10 ans ils ont tenté. Après aujourd'hui, il y a des formats qui commencent un petit peu à redevenir même des formats d'enregistrement qui commencent un petit peu à redevenir, à repartir en avance, notamment le FLAC, qu'on avait un petit peu oublié parce que c'était extrêmement lourd et vraiment pas pratique à transporter, qui revient un petit peu. Notamment grâce à la fibre, parce que maintenant ça va quand même vachement plus vite pour transférer des fichiers.
C'est vrai.
Voilà, à voir ce que nous réserve l'avenir sur des prochains supports audio.
Et dans 20 ans, tu nous referas une chronique de aujourd'hui à dans 2040.
Ah, ça pourrait être marrant.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses et c'est vrai que là, depuis X années, on est resté sur moins d'évolution en ce sens, mais en tout cas, tu nous as fait faire un petit tour.
Fait un petit voyage.
Gros voyage. Ouais. On est parti il y a pas mal d'années, on est arrivé du coup quasiment à nos jours. Merci pour ce tour d'horizon.
J'ai juste
tour
une
d'horizon.
Toute petite remarque, une petite observation, c'est que, alors vous comme moi, je pense, on a beaucoup de souvenirs sur ces anciens formats, que ce soit le CD, que ce soit la cassette ou le vinyle même. Mmh. Est-ce que la nouvelle génération, elle va aussi avoir des souvenirs avec ces formats de son enfance, le MP3 ou...
Le MP3, oui, mais c'est vrai que de se dire « Ah punaise, j'avais l'intégrale sur Spotify », ça a moins de charme que j'avais... la collection de cassettes, vu que tout est dématérialisé, tu n'as plus l'objet que tu peux toucher qui te permet d'avoir un souvenir supplémentaire à raconter. C'est vrai que les souvenirs auront un autre sens, quoi.
À voir, peut-être que comme on a encore des formats physiques qui reviennent, peut-être qu'on aura encore ce rappel, enfin ces souvenirs là qui vont rester, je ne sais pas,
on verra bien. Nous réserve. Merci mon cher Camille de nous avoir fait un petit tour culturel autour de la musique et de contextualiser toujours un maximum. Merci à toi de voir tes prochaines pérégrinations.